Bien, donc on entame la deuxième partie de ce colloque. Je me présente, Louis-Michel Duhin, un ancien du Centre régional de la propriété forestière de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et maintenant à Forêt méditerranéenne, vice-président pour la région sud. Voilà. Alors, pour démarrer cet après-midi, on vous a soigné, on a choisi un cas concret, un cas de terrain, une histoire vraie qui s'est déroulée, et d'une belle réalisation commune entre les acteurs de l'eau et de la forêt. Donc c'est l'agence de l'eau qui est allée voir l'ONF pour lui parler d'un problème, et l'ONF donc a mobilisé ses ressources internes, s'est fait épauler par des scientifiques des écoles des mines de Saint-Étienne et d'Alès, et donc ils ont maintenant des informations intéressantes à nous communiquer sur le fonctionnement des zones humides. C'est aussi un cas intéressant parce que c'est un exemple de solidarité amont-aval. L'amont qui produit la ressource en eau et l'aval qui la consomme. On en discutera plutôt demain lors de la table ronde. Donc je passe la parole à Benoît Larocque de l'ONF et Frédéric Parent qui devait assurer des cours est à Saint-Étienne et il est en ligne avec nous. Merci à lui.
Bonjour à tous, merci. Je suis Benoît Larocque de l'Office national des forêts Midi-Méditerranée, c'est-à-dire qui couvre les régions Occitanie et PACA. Merci à Forêt méditerranéenne de nous permettre d'exposer cette opération. Je fais la présentation avec mon collègue Frédéric Parent. Alors, est-ce qu'on peut le voir ? Non, on ne peut pas le voir, mais on va l'entendre, c'est déjà pas mal. Donc, pourquoi Frédéric Parent, qui travaille à l'école des mines de Saint-Étienne ? C'est parce que pour mener à bien ce projet, il s'agissait de réunir des acteurs de la gestion forestière, donc l'Office national des forêts, mais aussi une sorte de tutelle scientifique pour essayer d'appréhender les phénomènes dans leur dimension de recherche et, dans la mesure du possible, traduire ça aussi en action de gestion suite à l'interprétation des résultats hydrologiques. Frédéric, est-ce que tu nous entends ?
Moi, je vous entends très bien. Vous m'entendez aussi ?
Oui, on regrette juste que de ne pas te voir, mais c'est pas grave. À la fin, on fera quand même une petite vue. Donc, ce projet en Haute-Vallée de l'Aude est issu d'un questionnement des acteurs de l'eau de la vallée de l'Aude dans une situation de déficit hydrique important. On a mentionné des chiffres là qui font un peu tourner la tête, de 37 millions de mètres cubes par an, mais en tout cas qui traduisent quoi ? Qui traduisent une disparité forte dans les usages de l'eau essentiellement dans un contexte urbain de Carcassonne dans la partie médiane de la vallée de l'Aude et d'utilisation de l'eau agricole dans la partie aval. Donc ça c'est plutôt des secteurs qui sont demandeurs et avec un déficit sur la ressource eau dans ces secteurs estimé à 37 millions de mètres cubes. Bon, il ne faut pas prendre les chiffres au pied de la lettre, mais en tout cas une tension sur la ressource dans ces secteurs-là. Et par contraste, un eau de bassin versant très naturel, très forestier et dont on peut penser qu'il est plutôt producteur d'eau. Donc, l'agence de l'eau, le département de l'Aude et la région Occitanie étaient intéressés pour essayer de voir un petit peu quels étaient les phénomènes en amont et voir dans quelle mesure l'amont peut contribuer au soutien des étiages, d'une part, et d'autre part, à essayer d'amortir les effets de pluie, de crue, parce que le bassin de l'Aude, il est soumis à ces deux aléas que sont le manque d'eau et puis aussi parfois le surcroît d'eau brutal, à savoir des inondations. Donc pour ça, il ne s'agissait pas, je le dis d'emblée, de trouver 37 millions de mètres cubes dans les forêts, mais de comprendre des phénomènes peu étudiés jusqu'alors, d'objectiver certaines choses et de porter à la connaissance des acteurs du bassin, notamment le syndicat mixte de l'eau de rivière, le SMARL de l'Aude, en tant qu'établissement public de bassin, pour que cette question de l'eau intègre la politique publique et la question de ressources en eau entre ce lien amont-aval intègre la politique publique du bassin dans son ensemble. Donc une équipe multifonctionnelle a été mise en place avec, en titre des tutelles scientifiques, l'école des mines de Saint-Étienne, Frédéric Parent étant le tuteur scientifique, on va dire, de cette étude, l'école des mines d'Alès, Guillaume Artigue, en tant qu'ingénieur de recherche et modélisateur sur les phénomènes d'hydrologie, et puis des gens plus du terrain de la gestion forestière, à savoir les personnels de l'Office national des forêts. J'ai déjà parlé un petit peu, et ces résumés-là, les objectifs de cette étude, c'était de mettre en relation des territoires amont et aval, essayer de mieux comprendre ces phénomènes de circulation de l'eau dans les milieux naturels, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire des milieux naturels, qu'est-ce qui ressort et dans quel niveau ça ressort ou ça ne ressort pas par les cours d'eau sortants. Et en conséquence de ça, ce n'était pas une étude centrée sur les milieux naturels, mais s'interroger, et il y a deux diapos à la fin, vous verrez, sur la gestion des milieux naturels en conséquence, au-delà de l'aspect strictement hydrologique. La Haute-Vallée de l'Aude, voilà, j'en ai parlé, je ne vais pas m'éterniser. On est en amont de Quillan, pour faire simple, sur des secteurs assez forestiers, sachant que l'Aude prend sa source dans les Pyrénées-Orientales, sur le plateau du Cap-Cyr. Mais là, on est en train de travailler dans le secteur du Madre, qui présente l'intérêt d'avoir une grande couverture forestière. Il y avait des forêts publiques, donc là, c'était un peu plus facile d'intervenir rapidement. Et puis, vous allez voir pourquoi on a choisi ces secteurs. Quel est le parti pris de ce travail? Ce travail, il a été de travailler à deux échelles emboîtées. L'échelle de la zone humide, qui est assez classique comme approche, il y a des choses qui ont été faites ailleurs, avec des instrumentations de zone humide, mais il a été aussi de travailler à une échelle supérieure, une échelle emboîtée, à l'échelle du sous-bassin. Et donc, on a ciblé des sous-bassins riches en zone humide, et à contrario, des sous-bassins pauvres en zone humide, dépourvus de zone humide, pour comparer les phénomènes. Donc ça, c'est ce qu'on voit en vertical, là, les deux échelles spatiales imbriquées. Et puis, en ligne, on voit qu'il y a eu quoi ? Il y a eu des analyses de données hydrométéorologiques, ça veut dire qu'il va falloir instrumenter pour voir qu'est-ce qui rentre dans le système, essayer de comprendre comment ça fonctionne là-dedans, et qu'est-ce qui sort. Ça, c'est l'approche statistique, on va dire. Et puis, en dessous, il y a les indicateurs de soutien d'étiage. Frédéric va en parler. Là, c'est essayer de voir dans quelle mesure on peut cerner des contextes plus ou moins favorables par l'analyse du milieu sur la capacité de rétention d'eau, voire de relargage d'eau. Ah non, je ne vais pas passer tout de suite parce qu'il y a une dernière chose dont je veux parler qui est importante dans ces questions fondamentales de transfert de la recherche à la gestion. C'est qu'on a fait ça en lien avec ce qu'on appelle la ZABR. La ZABR, c'est la zone atelier bassin du Rhône. C'est une démarche de l'agence de l'eau et des partenaires de la recherche. C'est d'avoir des démarches scientifiques de haut niveau, valables, intègres, et de traduire ça, de s'efforcer d'aller jusqu'à la gestion. Parce qu'il faut arriver, en tout cas pour les gestionnaires, à avoir des choses qui soient après un peu terriennes sur la gestion de ces milieux, la gestion de l'eau en forêt. Voilà ce dont je parlais, c'est-à-dire que vous voyez là le secteur qui a été instrumenté et le parti pris a été de cibler deux sous-bassins, il y en a un qui s'appelle le Puntarou et l'autre le Pinata, peu importe, mais en tout cas dans le bassin du Puntarou, là, on fait un peu un focus là-dessus, il y a un secteur qui est riche en zone humide, un sous-bassin, c'est des poupées gigognes ça, un sous-bassin qui est riche en zone humide qu'on va instrumenter. On va instrumenter avec une station météo qu'est-ce qui rentre dans ce sous-bassin, les apports météoriques, c'est-à-dire la pluie et la neige, qu'est-ce qui rentre dans le sous-bassin. Ensuite, on va installer des piézomètres. Donc la station météo, elle est là, le pointeur, il est là. On va installer, ça c'est à l'entrée du dispositif, on va installer des piézomètres répartis sur l'ensemble des zones humides pour voir un petit peu qu'est-ce qui circule. Et puis en sortie, on va installer ces espèces d'engins là, qu'on appelle H-flume, qui sont des gabarits, des débitmètres, dont la forme est jaugée, et avec une loi, on peut savoir, en fonction de la hauteur d'eau qui est mesurée par une sonde, quel est le débit sortant, pour essayer d'appréhender à la fois ce qui rentre, et les transferts, et ceux qui ressortent du système. Donc c'est là que je vais passer la parole à Frédéric.
Oui, merci Benoît. Comme vient de le dire Benoît, on a mis en place un dispositif expérimental qui nous a permis d'acquérir un certain nombre de données que vous pouvez voir ici sur le tableau. On a à peu près 3-4 ans de données qui ont été déjà acquises. Et les données dont on avait besoin sur ces bassins versants, compte tenu du dispositif expérimental, ce sont des données météo et des données hydrologiques. Alors l'objectif ici était d'essayer de comparer des bilans hydrologiques ou des réponses hydrologiques d'un sous-bassin versant avec des zones humides et d'autres avec moins des zones humides. Alors là, c'est plutôt mon collègue des mines d'Alès, Guillaume Artigue, qui a pris en charge ce type de traitement fondé sur différents types d'analyses statistiques qui vont nous permettre de faire des bilans et puis de mieux comprendre des relations, par exemple, pluie-débit sur les bassins. dans une première approche. Et puis, compte tenu du fait qu'on commence quand même à avoir un petit peu de profondeur temporelle dans les données, essayer quelques essais de modélisation, même si il manque encore un peu de profondeur temporelle pour avoir une modélisation vraiment aux petits oignons, on va dire. Donc là, il a utilisé un modèle alors qui est plutôt adapté à un modèle glacio-hydrologique, qui est adapté donc aux conditions d'altitude, donc comme c'est le cas sur la haute vallée de l'Aude, dans lequel un bassin sur lequel on peut trouver de la neige, et c'est le modèle Sauconte. Alors dans la diapo suivante, je vais vous présenter les principaux résultats. Alors au départ, c'est vrai qu'on a observé, en analysant ces 4 années de données, on a observé des différences relativement faibles dans le comportement hydrologique des bassins avec beaucoup de zones humides et des bassins avec très peu de zones humides. Même là où on a été un petit peu surpris, donc c'est ce qu'on peut voir sur le graphique des débits classés en bas à gauche, c'est que finalement les deux bassins étudiés avec des zones humides avaient des débits qui étaient plus faibles, qui étaient moindres que sur les bassins avec moins de zones humides. Donc ce sont les courbes bleues sur lesquels on a les bassins avec beaucoup de zones humides, et les courbes oranges qui sont les bassins sur lesquels on a peu de zones humides. Sur le graphique d'à côté, du coup, pour le soutien d'étiage, c'était pas forcément très positif. Par contre, sur la question de l'écrétage de crues, alors ce qu'on peut voir sur le graphique d'à côté, on se rend compte que les bassins sur lesquels on n'a pas de zone humide ont une réponse plus forte en cas d'événements pluviométriques importants, donc après une longue période de sécheresse. Donc on voit que sur la courbe sur le graphique de droite, la courbe orange monte un peu plus haut que la courbe bleue en réponse à un premier orage. Sur le deuxième pic, on voit cette fois que par contre les deux pics de réponse à une pluie sont identiques. Ce qui signifie vraisemblablement que les zones humides ici ont une capacité de stockage des premiers épisodes pluvieux après une période de sécheresse. Ça montre aussi que globalement, alors Benoît m'a dit que ça avait été évoqué ce matin, que le compartiment évapotranspiration allait avoir une forte influence sur l'hydrologie de ces bassins versants, ce qui peut s'avérer embêtant les températures augmentent dans le cadre de changements climatiques. Alors sur la diapo suivante, on a fait une figure qui synthétise les résultats et qui montre que finalement, quand on a beaucoup de zones humides sur un bassin versant forestier, on augmente l'évapotranspiration et que, au moment du bilan estival, on a tendance à légèrement diminuer les débits, contrairement au bassin versant sans zone humide où le TP est potentiellement moindre et où les débits seront un petit peu plus importants. Toutefois, l'analyse globale du cycle de l'eau du secteur montre que l'augmentation de l'ETP va générer vraisemblablement des orages estivaux qui vont avoir une plus forte contribution sur le cycle de l'eau local à l'échelle du bassin versant et qui est vraisemblablement favorisé par les bassins qui ont qui possèdent des zones humides. Donc voilà pour les résultats hydrologiques. Pour la partie indicateur, donc ça c'est plutôt de côté mines Saint-Étienne dont on s'en est occupé. Donc l'idée c'était de regarder comment des zones humides pouvaient stocker de l'eau et la déstocker avec un décalage dans le temps. Donc grosso modo, stocker l'eau en période pluvieuse et la déstocker en période sèche. Donc on a eu deux approches. Une première approche à l'échelle du site fondée sur l'équation de Boussinesq qui permet de modéliser la vidange d'un réservoir à un exutoire principal. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire cette modélisation en utilisant les caractéristiques de la géométrie du réservoir. Par exemple, la hauteur d'eau au niveau de l'exutoire, sa forme, sa surface, mais aussi des propriétés hydrodynamiques. Donc ici, principalement, la porosité efficace, qui est l'eau qui est déstockable, enfin l'eau contenue dans la tourbière qui est déstockable gravitairement, et la conductivité hydraulique qui représente la facilité avec laquelle un flux traverse un réservoir. Alors globalement, plus ces paramètres sont importants, sont forts, plus la capacité de soutien d'étiage ou le potentiel de soutien d'étiage de la zone humide reste important, sauf pour la conductivité hydraulique, où il serait préférable qu'elle soit intermédiaire pour éviter que la zone humide se vidange trop vite. Alors, au-delà de toutes tous ces paramètres et de de cette équation qui est pas forcément très facile à utiliser, je vous ai mis un petit graphique pour vous montrer les résultats qu'on peut obtenir. Et on voit ici sur le graphique de gauche, pour différentes combinaisons de paramètres, le nombre de jours, la décroissance. On voit la décroissance du débit et ici le nombre de jours à partir duquel celui-ci passe en dessous de 1 litre seconde, donc qui est le trait horizontal gris. Donc grosso modo, plus les zones humides sont grandes en surface, plus l'épaisseur mouillée est forte et plus la conductivité hydraulique est forte, et plus ce temps de vidange pour passer en dessous de 1 litre seconde va être important. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les zones humides qui sont grandes vont être avantagées pour présenter un bon potentiel de soutien d'étiage. Malheureusement, donc sur le bassin du Madre, si on prend les zones humides individuellement, comme elles sont petites, comme elles ont une faible épaisseur et une faible charge hydraulique, individuellement, elles vont être peu favorables au soutien d'étiage. Donc sur ce bassin, on a pris le parti de travailler à partir d'indicateurs qui vont être analysés à l'échelle de bassins versants. Alors si l'équation de Boussinesq est quelque chose qui marche relativement bien pour caractériser une zone humide, même si il faut faire un petit peu attention puisque normalement elle ne fonctionne que pour des réservoirs non déformables. Bon, la tourbe reste une matière organique déformable, mais bon, on peut s'en contenter. À l'échelle des bassins versants, c'était une autre histoire. Il fallait inventer complètement des indicateurs. Donc, dans ce travail, on est parti sur des indicateurs qui nous permettaient de déterminer un potentiel de stockage d'eau et un potentiel de connectivité hydraulique. Pour ça, pour essayer de jouer sur le potentiel de soutien d'étiage et d'écrétage de crue. Alors, bon, ici, c'est des résultats, c'est un travail préliminaire pour lequel on a pu identifier 7 indicateurs qui nous semblaient intéressants à l'échelle des bassins. Alors aujourd'hui en l'état, ces indicateurs restent un petit peu théoriques et il faudrait s'avancer sur des validations terrain qu'on devrait pouvoir obtenir avec des chroniques de données un petit peu plus longues. Donc, je te laisse la parole Benoît pour la partie opérationnelle.
Pour terminer, quelques éléments de retour à la gestion. Donc, encore une fois, c'était avant tout une entrée hydrologique, ce n'est pas une entrée où on ne cherchait pas à comprendre l'état, l'évolution des milieux sur la base du paramètre du facteur eau. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir un peu la situation et d'essayer de faire quelques constats, même si c'est à date et qu'il n'y a pas de profondeur temporelle non plus, pour voir là aussi comment les milieux sont susceptibles d'évoluer. Donc ces tourbières, ce sont des tourbières de pente, peu épaisse, hein, des tourbières qu'on peut rattacher à l'habitat des tourbières hautes actives. Qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est que ce sont des tourbières qui sont en limite d'air, donc structurellement, elles sont dans une sorte de fragilité. Qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate une forme fragmentaire, alors ça c'est assez classique aussi dans les tourbières, mais on a les secteurs à tourbe stricto sensu, mais on a aussi tout un cortège, un éco-complexe souvent de milieux avec des secteurs qui relèvent plus des milieux de zones humides, qui ne sont pas avec une activité tourbeuse, turfigène, mais qui ne sont pas dénués d'intérêt pour autant. Mais en tout cas, la tourbe, et on si on fait le, on prend le parti de dire que c'est le milieu naturel sur lequel on cible la gestion, d'ores et déjà ne concerne pas l'ensemble des surfaces de zones humides. Donc il faudrait peut-être mieux parler d'ores et déjà de zones humides plutôt que de tourbières. Qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que cette diversité des sous-types de zones humides, il est lié, bon, peut-être à l'histoire, peut-être à des facteurs divers du milieu, mais il est aussi certainement lié à un processus de dégradation qui paraît, d'un point de vue des paramètres écologiques, être en train de se mettre en place, en tout cas avec une fragilité générale et un risque d'évolution depuis la tourbière jusqu'à des faciès de zones humides, voire des faciès plus mésophiles de type nardée. La nardée, c'est des milieux qui sont moins humides finalement, là aussi qui peuvent être intéressants, mais on perd quand même la turphigénèse, on perd cet élément-là, et on perd aussi le niveau de patrimonialité de la tourbière haute active. Donc l'évolution de l'hydrologie, qui peut être liée au changement compressant, génère aussi des évolutions en termes de composition phytosociologique et puis un peu une perte de patrimonialité. Donc face à ça, oui, ça marche. Les principes de gestion, je disais tout à l'heure que l'alimentation elle est essentiellement météorique, ça veut dire c'est la pluie, la neige, et puis un effet très certainement, même si on ne l'a pas pu l'instrumenter, l'importance des eaux souterraines pour alimenter ces milieux-là, ces milieux humides. Donc ça signifie que le gestionnaire, il a assez peu prise finalement. Ce n'est pas comme certaines zones humides où il y a un cours d'eau entrant, où là on peut essayer de restaurer le cours d'eau, on peut essayer de jouer sur les débits, là on ne peut pas jouer sur grand-chose. Bon, malgré tout, le gestionnaire n'est pas complètement désemparé, mais dans quelle posture il va se mettre? Il va se mettre dans une posture d'accompagnement, de contrôle souple, en se disant que son maître mot, ça peut être de garantir une alimentation en eau la plus continue, justement pour éviter cette évolution régressive vers des milieux où on perdrait la tourbe. Ça signifie oxydation, ça signifie relargage de carbone aussi. Donc encore une fois, essayer de cibler sur ça. On fait le parti que c'est le milieu qui aura des processus hydrologiques les plus intéressants, même si ça c'est pas certain. Donc essayer de conserver la tourbe en conservant un annoyage maximum et donc en jouant sur ce sur quoi on peut jouer. Donc, que peut faire le gestionnaire? Le gestionnaire, il peut essayer de maintenir une ambiance microclimatique. Ça, c'est jouer sur les lisières en particulier. On a des tourbières qui sont forestières. Frédéric a parlé de cet ensoleillement qui va croissant. Alors, dans les chroniques de données de pluie, le collègue de l'école des mines d'Alès n'a pas, sur 30 ans, n'a pas vu d'évolution de la pluie pour autant. Mais en tout cas, quand même, il a noté un caractère de plus en plus aléatoire de la pluie. Mais manifestement aussi, il y a des périodes d'ensoleillement de plus en plus fort. Donc ça génère de l'évapotranspiration et ça peut générer des phénomènes d'ensoleillement donc excessifs pour la tourbière. Donc maintenir des lisières. L'arbre n'est aujourd'hui plus complètement banni dans les tourbières. Ça, c'est quelque chose qu'on lit dans la bibliographie et qu'on s'efforce d'appliquer. Je montrerai tout à l'heure. Quand il y a des îlots boisés, ils ne sont pas par nature à couper intégralement, mais c'est plutôt là aussi un contrôle des semis, voire un peu le dynamisme des ligneux. Avec une question qui rejoint ce dont on a parlé ce matin, c'est quelle est l'importance du ligneux là en termes d'évaporation? Est-ce qu'il vaut mieux le maintenir pour garder le confinement ou est-ce qu'il faut essayer de l'enlever pour se dire qu'il y aura moins d'évaporation, mais on voit que la tourbière en elle-même évapore aussi. Et donc je vois que le temps passe, et donc je vais vous présenter la dernière diapo. Donc ça c'est un exemple de zone humide où, comme je disais, on peut imaginer que les secteurs d'arbres peuvent être maintenus. Évidemment, on ne touche pas à l'intégrité de la tourbière, on laisse les marges boisées. Je voulais vous montrer ceci qui est assez intéressant. C'est des piézomètres sur cette tourbière. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans certains secteurs de la tourbière, il n'y a pas de tarissement des piézomètres. Donc là, si on fait le lien entre hydrologie et composition du milieu naturel, on pense que le milieu, son forçage, c'est-à-dire que les mécanismes hydrologiques sont en place, et donc il y a un assez faible risque de voir le milieu se dégrader, en tout cas vis-à-vis du paramètre eau. A contrario, dans d'autres secteurs de la tourbière, on voit qu'il y a un tarissement à partir du début de l'été. Donc là, ça signifie, c'est une alerte sur le fait que cette partie-là de la tourbière, elle est en danger, parce que il va y avoir un assec et donc un risque de perte de l'activité tourbeuse faute de l'alimentation du mécanisme eau. Mais c'est un peu paradoxal finalement, parce que là on peut se dire la tourbière elle s'est vidangée, mais là il y a une capacité de soutien d'étiage, d'amortissement des crues, pardon, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que là, on peut remplir le réservoir. Donc là, s'il y a un orage qui arrive, comme l'a expliqué Frédéric, on a une capacité à recharger, en tout cas sur les premières pluies, à recharger pour remplir le réservoir. Donc c'est là qu'il faut aussi être très prudent, comme on dit depuis ce matin. Le milieu, il souffre. Il ne souffre pas trop si c'est à sec, il arrive relativement tard en saison. Si ça arrive trop tôt, eh bien, on pourrait dire d'un point de vue amortissement des crues, c'est intéressant, il y aura de la capacité de réservoir. Mais vis-à-vis du milieu naturel, il sera en difficulté, il sera en souffrance. Voilà. Donc ça, c'est un peu, pas le paradoxe, mais c'est la multitude des facteurs que le gestionnaire de milieu naturel doit avoir en tête et doit essayer de pouvoir appréhender. Merci beaucoup.